Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Soir, vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Ce soir, on va évidemment suivre ensemble cette conférence de presse très attendue du Premier ministre Jean Castex, qui devrait donc annoncer un couvre-feu national à 18h. On en parlera en détail avec nos invités jusqu'à 20h. 18h20, ce sera le professeur Bréchaud qui sera avec nous. Il est virologue, ancien directeur de l'Institut Pasteur. À 18h30, les polémiques du jour avec les grandes voix. On reviendra sur les anti-vaccins qui sont, nous le verrons, de moins en moins nombreux en France. 19h20, le grand débat. On parlera des petits commerces qui vont peut-être devoir donc fermer à 18h. Ça va être très dur pour eux. Et puis on vous dira comment vous pouvez négocier avec votre employeur aussi pour rentrer à la maison plus tôt. Un grand merci également à vous, amis auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre depuis le mois de septembre. On est très fiers avec les équipes d'Europe Soir et on vous remercie pour votre fidélité. 13 000 auditeurs de plus en quelques semaines. Merci de votre confiance. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Peut-être étudier une ouverture plus tôt le matin et s'imaginer, au lieu de faire ses courses le soir en sortant du travail, c'est peut-être de les faire avant d'aller travailler.
Jean Castex devrait donc annoncer d'ici quelques minutes maintenant un couvre-feu généralisé à 18h dans tout le pays.
Les commerçants s'organisent, certains resteront ouverts entre midi et 2.
Car les chiffres restent préoccupants, plus 30% de contamination en une semaine et un variant anglais qui semble nous échapper. Pas suffisamment toutefois pour instaurer un reconfinement, en tout cas pas pour l'instant.
Et on fera le point dès le début du journal avec les infos de Victor Delande et de Jean-Rémy Baudot qui nous dira que tout le gouvernement est sur le pont.
Au sommaire également, la R5, le retour. Renault dévoile un prototype au look dépoussiéré et entièrement électrique. Le constructeur fait sa Renaultution et ressuscite au passage des modèles iconiques.
Il était en grève de la faim pour dénoncer l'expulsion de son apprenti guinéen. Le boulanger de Besançon a gagné. Le jeune homme va être régularisé.
Et puis 3,2 millions d'euros, record mondial d'enchères pour un dessin de bande dessinée réalisé par Hergé pour la couverture de son Lotus bleu. Il n'avait pas été retenu à l'époque, mais aujourd'hui, il a affolé les compteurs. La Bourse de Paris a terminé ce soir en légère hausse de 0,33% à 5681 points.
Et puis la météo avec Anissa, bonsoir.
Bonsoir,
Julien. La neige toujours présente dans les prochaines heures sur le territoire.
Oui, avec encore 11 départements placés en vigilance, orange, neige et verglas dans le nord-est jusqu'à demain midi. Attention, les températures seront négatives demain matin dans ce secteur. La journée de demain sera ensoleillée au nord, plus hivernale au sud. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un couvre-feu à 18h, vraisemblablement étendu à tout le territoire. L'option reconfinement, a priori écartée. Voilà donc ce que devrait annoncer le Premier ministre d'ici quelques instants.
Oui, nouvelle conférence de presse de Jean Castex, entourée de 6 de ses ministres. On va y revenir bien sûr longuement. Mais d'abord, ce couvre-feu à 18h, pour les commerçants, c'est toute une organisation qu'il va falloir revoir.
Oui, le quotidien de Sébastien Courtois, par exemple, qui est patron d'un petit intermarché au Pèlerin. C'est une commune à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Nantes. Son quotidien va changer. Il faut savoir que beaucoup d'habitants travaillent à Nantes et profitent d'une ouverture jusqu'à 19h30 habituellement pour faire quelques courses avant de rentrer chez eux. Eh bien, dès lundi, ça risque d'être compliqué.
Sortir du travail à 17h30 de Nantes et d'arriver à 18h pour faire ses courses au Pèlerin, je pense que ça peut être compliqué pour eux. Je pense que ça représente 10% de notre chiffre d'affaires qui va être impacté. Et c'est pour ça que, dès à présent, on réfléchit à des solutions pour y faire face et puis apporter ce service, en tous les cas. Entre autres, le renforcement des lignes de caisse à partir de 16h30, sortie des écoles, l'élargissement des créneaux pour le drive pendant midi et surtout tout au long de la journée. Peut-être étudier une ouverture plus tôt le matin et s'imaginer, au lieu de faire ses courses le soir en sortant du travail, c'est peut-être de les faire avant d'aller travailler. C'est encore des choses qu'il faut que l'on affine, bien entendu.
Voilà le patron d'un intermarché de Loire-Atlantique au micro Europe 1 de Charles Guyard. Bonsoir Victor Delande.
Bonsoir.
Alors ça n'est jamais de gaieté de cœur que le gouvernement met en place de nouvelles restrictions, mais il s'appuie toujours sur des données concrètes.
Tout
et en l'occurrence, il y a aujourd'hui une bonne et des moins bonnes nouvelles.
Alors oui, je commence par la bonne. Il n'y a pas eu d'explosion des contaminations lors de la soirée du 31 décembre. Les Français se sont bien comportés pendant les fêtes. Voilà pour l'unique bonne nouvelle, car pour le reste, les chiffres ne sont pas bons. La courbe des nouvelles contaminations est en croissance, près de 20 000 nouveaux cas par jour, plus 30% en une semaine. Un taux de reproduction lui aussi en hausse à 1,13. Des niveaux de contamination qui augmentent aussi plus fortement dans l'Ouest, alors que cette partie de la France était plutôt épargnée jusqu'à présent. Des nouveaux cas qui se font ressentir forcément dans les hôpitaux, où le nombre de patients ne faiblit pas. Près de 25 000 lits sont aujourd'hui occupés par des patients Covid. C'est davantage que le 30 octobre, date de l'entrée en vigueur du deuxième confinement. Et puis, l'une des préoccupations majeures du gouvernement, c'est bien sûr le variant anglais, qui circule certainement plus que les chiffres annoncés hier. 1 000 cas sur tout le territoire. des cas et des clusters qui émergent un peu partout. Deux nouveaux foyers de contamination, par exemple, ont été identifiés dans le sud, à Fréjus et à Biot. Et l'une des difficultés actuelles, c'est le manque de moyens pour séquencer les tests PCR et s'assurer qu'on est bien en présence de la souche anglaise. Les centres nationaux de référence sont totalement débordés ces derniers jours.
Merci Victor Delande du service Société d'Europe 1.
En tout cas, Jean-Rémy Baudot, preuve que l'heure est grave, Jean Castex est entouré ce soir de 6 de ses ministres.
Oui, c'est au moins ce qu'il faut autour du Premier ministre pour aborder tous les sujets ce soir. La santé, l'économie, le travail, l'éducation, l'enseignement supérieur, la culture. Mais au-delà de l'équipe, ce sont les annonces qui seront scrutées. Cette contrainte qui devrait toucher tout le territoire. Un couvre-feu avancé à 18h sur l'ensemble du pays. Voilà ce qui devrait être annoncé. Jean Castex, qui a passé l'après-midi enfermé dans son bureau, des proches décrivent la tension qui a régné à Matignon ces dernières heures. Parmi les points délicats, l'idée d'un reconfinement le week-end uniquement peut-être localisé. Une idée qui avait été écartée, puis qui serait revenue sur la table. Le Premier ministre détaillera évidemment ces points dans quelques minutes. Le gouvernement qui promet par ailleurs de soutenir et d'élargir les dispositifs d'aide pour les entreprises. Bruno Le Maire prendra la parole. Le gouvernement qui fera aussi des annonces sur le scolaire avec la promesse d'un million de tests par mois dans les écoles. Annonce aussi pour le supérieur. L'exécutif promet une réponse au malaise grandissant des étudiants.
Merci Jean-Rémy Baudot. Vous nous appelez évidemment dès que vous avez les dernières infos de cette conférence de presse de Jean Castex.
Et aujourd'hui, un couac informatique est venu perturber l'inscription pour la vaccination des personnes de plus de 75 ans qui ne vivent pas en EHPAD. Le site internet du gouvernement santé.fr a été pris d'assaut. Il a bugué. Son ouverture est donc reportée à demain. Mais on peut également s'inscrire sur trois plateformes privées, notamment Doctolib. Et puis demain, on aura aussi le numéro de téléphone dédié.
L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé chargée d'enquêter, vous le savez, sur l'origine du coronavirus est arrivée, ça y est, ce matin en Chine, à Wuhan.
Leur mission, comprendre comment l'épidémie est née, alors que le pouvoir chinois manque pour le moins de transparence sur le sujet. Ces experts vont, avant de pouvoir entamer leur travail, devoir respecter une quarantaine de 14 jours à l'isolement.
Voilà, Wuhan. J'ai du mal à le prononcer. La Tunisie confinée en ce 10e anniversaire de la Révolution, Isabelle.
Oui, il y a 10 ans, après plusieurs semaines de troubles déclenchés par l'immolation d'un vendeur ambulant, une foule s'était rassemblée avenue Bourguiba devant le ministère de l'Intérieur. La colère contre la misère s'était tournée contre le régime. Le soir même, Ben Ali prenait la fuite vers un exil doré en Arabie Saoudite où il est décédé en 2019.
Cette affaire maintenant, l'affaire de la mort par noyade d'un élève officier de l'école Saint-Cyr. Coïncident, en 2012, le tribunal correctionnel de Rennes condamne un militaire et deux anciens militaires à des peines de prison avec sursis. Elle en relaxe 4 autres.
Les jeunes étudiants brillants, le sous-lieutenant Jalal Ami, 24 ans, s'était noyé durant une activité de transmission des traditions, une sorte de bizutage qui ne dit pas son nom, sur le thème du débarquement des alliés de Provence. Les nouveaux élèves devaient traverser un étang à la nage de nuit avec casque et rangers dans une eau à 9 degrés.
La révolution chez Renault, le constructeur a présenté son plan pour les années à venir.
Oui, il a dévoilé sa feuille de route jusqu'en 2025 pour affronter la révolution du secteur automobile.
Première nouveauté, la moitié de ces véhicules seront électrifiés d'ici 4 ans.
Et puis Renault mise aussi sur le pouvoir du vintage. Aurélien Fleurot avec le retour de modèles iconiques.
Exactement, ce plan stratégique passe d'abord par de nouveaux modèles et comme il l'avait fait avec succès pour la Fiat 500, Luca De Meo, directeur général de Renault depuis 6 mois, s'inspire de voitures qui ont marqué leur époque pour les mettre au goût du jour. Place donc à la R5 100% électrique.
Cette voiture a la mission de démocratiser, de rendre populaires les voitures électriques et je pense que ça c'est une mission typique dans l'histoire de Renault. Et on le fait avec une touche d'un point de vue de design qui va réchauffer les cœurs de beaucoup de Français. J'ai toujours pensé que l'âme des constructeurs automobiles est dans ses racines, donc c'est un de ces produits qui fera retrouver l'âme à la marque Renault.
Elle arrivera sur le marché en 2023. 3 ans pour sortir une voiture plutôt que 4 ou 5 ans auparavant, c'est l'autre volet de ce plan stratégique, gagner en simplification, en efficacité grâce à des plateformes communes, avoir des équipes dédiées à chaque marque, Renault, Dacia, Alpine, Mobilize pour les services connectés. Luca De Meo a également tenu à rassurer les salariés qui demandaient des garanties sur les emplois et le futur des sites industriels. Pas d'inquiétude, a répondu le nouveau patron. Pas de fermeture envisagée à Dieppe, notamment pour Alpine. Et puis cette future R5 électrique devrait être fabriquée à Douai.
Aurélien Fleurot du service Éco d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
À 18h10, la suite du journal. La ténacité du boulanger de Besançon a donc fini par payer, Isabelle.
Oui, cet homme dont vous avez entendu sans doute le témoignage sur Europe 1 était en grève de la faim pour protester contre l'expulsion de son apprenti guinéen. Yasmina Katou, tout s'est accéléré aujourd'hui.
Absolument. Ce matin à 8h15, Sonia Mabrouk recevait Elisabeth Borne. La ministre du Travail a été interpellée sur Europe 1 sur le cas de ce guinéen apprenti boulanger qui risquait l'expulsion alors qu'il travaille en France depuis 2 ans.
Je suis vraiment aussi bien sensible, évidemment, à l'émotion que ça suscite. Et je vous dis, ça ne doit pas se passer comme ça. Normalement, quand un jeune mineur arrive en France, qui fait une formation, que ça se passe bien, alors il peut continuer à travailler en France. Là, on a un cas particulier. Il y a une procédure judiciaire. Moi, je ne vais pas me prononcer dessus.
Si le gouvernement a dû se positionner sur le cas de l'apprenti boulanger qui se prénomme Lai, c'est parce que l'affaire avait pris de l'ampleur ces derniers jours. Des personnalités politiques, des artistes ont apporté leur soutien au boulanger en grève de la faim. Les médias allemands, italiens et même libanais ont relayé l'affaire. Tout cet emballement a, selon Stéphane Ravaclet, le boulanger, accéléré le dénouement que l'on connaît aujourd'hui. À 13h, le boulanger et son apprenti ont été convoqués par la préfecture de Haute-Saône qui leur a annoncé la régularisation de Lai.
C'est une victoire totale pour moi, je vais enfin pouvoir manger. Et pour là, il est sauvé, il va pouvoir passer son CAP, puis voilà, et ça ne fait que commencer.
Et quelle a été la réaction de Lai, votre apprenti ?
Il est très très heureux, il est enfin soulagé de pouvoir vivre pleinement sa vie comme il le désire.
Et sa vie, elle reprend dès mardi. Lai peut désormais reprendre sa place d'apprenti boulanger à la Huche à Pain à Besançon. Stéphane Ravaclet promet de l'embaucher une fois diplômé.
Merci Yasmina Kato.
Dans 6 jours, Joe Biden sera officiellement investi président des États-Unis lors d'une cérémonie absolument inédite.
Oui, d'abord parce que son prédécesseur Donald Trump n'y participera pas. Et puis, ça y est, on a le programme. Lady Gaga chantera l'hymne américain sur les marches du Capitole. Jennifer Lopez est également annoncée. Une cérémonie sur le thème de l'Amérique unie, sans public, mais avec un chant de drapeau qui remplacera les citoyens américains.
Et puis avec la garde nationale déployée, on a vu les images sur les télévisions. Un nouveau record pour Hergé, le père de Tintin. Le dessin qu'il avait imaginé pour illustrer la couverture de l'un de ses plus célèbres albums, le Lotus Bleu. Ce dessin, il vient d'être vendu aux enchères, 3,2 millions d'euros frais compris.
Et Diane Shenouda, c'est d'autant plus fou que cette couverture n'a finalement pas été retenue pour l'album.
Et oui, mais c'est un chef-d'œuvre, hein, une encre de Chine, gouache et aquarelle, réalisée par Hergé en 1936. Une pièce exceptionnelle, rarissime. C'est la première fois qu'elle était mise sur le marché. On voit Tintin en tenue chinoise, caché dans une jarre, face à un énorme dragon rouge sur fond noir. Ce premier dessin n'a finalement pas été retenu car il coûtait trop cher à reproduire. Du coup, selon la maison Arcurial, Hergé l'aurait donné en cadeau au fils du patron des éditions Casterman quand il était enfant. Et ce sont ses héritiers qui l'ont mis aux enchères aujourd'hui. Une vente animée par le commissaire-priseur Arnaud Oliveau de la maison Arcurial.
Pour cette œuvre exceptionnelle, nous allons débuter les enchères à 1 500 000, 1 600 000, à 1 600 000. 1 700 000, 1 700 000, 1 800 000.
Et les enchères grimpent très vite.
1 900 000 par mois ici, à 1 900 000. Je vais adjuger à 2 600 000 et sans regret, c'est votre enchère Bruno. J'adjuge à 2 600 000, adjugé 2 600 000. Eh bien, je peux vous annoncer que cette pièce est le nouveau record mondial pour une pièce dans l'univers de la bande dessinée.
Et oui, ce trésor revient à un collectionneur privé qui a déboursé au total 3 200 000 euros frais compris. C'est en effet le record mondial de vente pour la bande dessinée et un nouveau record pour Hergé, puisqu'en 2014, un lot de pages de garde était parti à plus de 2,5 millions d'euros.
Merci Diane Shenouda.
On n'a pas prêt de s'en offrir. Hein. Je ne sais pas quel est votre album préféré.
Malheureusement.
Moi, c'est On a marché sur la lune.
Ah, le trésor de Rackham le Rouge, moi j'aime bien.
Ah, pas mal, pas mal.
En sport, coup d'envoi du mondial de handball en Égypte, France-Norvège, c'est à partir de 20h30 ce soir.
On suivra ça. Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour les annonces de Jean Castex à 18h30 et à 19h pour un point détaillé dans le journal. Un coup d'œil au temps avec Anissa qui nous a retrouvés, qui nous dit prudence Anissa. Demain, des vigilances sont toujours maintenues dans le nord-est, même ce soir d'ailleurs.
Ce soir, jusqu'à demain, la mi-journée, 11 départements. Ça va du nord jusqu'à l'Alsace, en passant par le territoire de Belfort et la Lorraine. L'épisode de neige se prolonge effectivement jusqu'à demain midi, avec par endroits des chutes de neige importantes et inhabituelles dans le secteur. La place Stanislas à Nancy est toute blanche, comme les rues de Mulhouse actuellement, soyez prudents. D'ailleurs, les préfectures des Vosges, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont mis en place des restrictions de circulation. D'ailleurs, notez que la circulation des trains est également perturbée dans la région. Demain, vendredi, pas de transport scolaire dans les Ardennes. Demain matin, il continue de neiger dans le nord-est, avec en plus de ça des températures négatives. Ça veut donc dire que nous aurons un risque important de verglas. Au bord de la Méditerranée, Méditerranée, le temps reste sec et ensoleillé, mais la tramontane toujours très fort, avec des pics jusqu'à 110 km/h. Finalement, c'est au nord de la Seine, demain après-midi, des Pays de la Loire jusqu'à l'Alsace, hein, une fois que la neige aura disparu, eh bien les éclaircies seront de retour et elles vont illuminer votre vendredi. Les températures, demain matin, elles restent froides, je vous l'ai dit, dans le nord-est. Oui. Demain après-midi, pareil, avec moins 1 à Charleville-Mézières, 1 degré pour Lille et Strasbourg, 3 seulement pour Paris, 5 à Clermont-Ferrand, 8 à Toulouse et Lorient, 11 à Bastia. Et la maximale est prévue pour Toulon avec 13 degrés.
Bah pas mal, 13 degrés. Ils ont de la chance, nos amis toulonnais. On les embrasse d'ailleurs ce soir. Merci Anissa, on vous retrouve
tout à l'heure
à 18h30. Et on annonce à l'instant, c'est une dernière minute du Premier ministre Jean Castex, qu'un couvre-feu est donc étendu à tout le territoire à partir de 18h. Voilà, c'est confirmé. Et on va en parler dans quelques secondes avec notre invité. Ce sera le professeur Bréchaud, ancien patron de l'INSERM et de l'Institut Pasteur. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h19, il est virologue, ancien directeur de l'INSERM et de l'Institut Pasteur et président du Global Virus Network. Bonsoir Christian Bréchaud.
Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation.
Mais merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir pour commenter notamment les annonces faites en ce moment par le Premier ministre Jean Castex. Donc c'est confirmé, un couvre-feu sera appliqué dès ce samedi à 18h pour l'ensemble du territoire national, pour l'ensemble de la métropole française, pour au moins 15 jours. Votre réaction, est-ce que c'était nécessaire ?
Alors je pense que c'était certainement nécessaire et donc c'est une discussion logique. Je crois que comme vous le savez, La question, c'était est-ce qu'on allait vers cette mesure ou est-ce qu'on allait plus loin vers un reconfinement complet suivant, si je peux m'exprimer ainsi, l'organisation au Royaume-Uni. Moi, je pense personnellement que c'est une décision qui est logique. Le point essentiel, mais on va y revenir, c'est de l'associer à la vaccination. Sinon, oui. ça sera inutile.
Vous vous êtes d'ailleurs récemment déclaré opposé à un confinement strict. Vous pensez qu'on peut y échapper dans les semaines qui viennent ?
Ben écoutez, opposer, ce sont des décisions qui sont extraordinairement difficiles à prendre. Et ce que j'ai dit simplement, effectivement, que je pense, c'est que quand on regarde les courbes actuelles, on a d'un côté l'inquiétude, effectivement, parce qu'on a ces variants qui sont plus contagieux et qui clairement sont en train de prendre le dessus, comme ils l'ont fait au Royaume-Uni et comme ils le font dans beaucoup d'autres pays. Donc ça, oui, c'est un élément négatif, parce que même si la sévérité de la maladie n'est pas plus grave, c'est quand même évidemment, ça favorise la diffusion de l'épidémie. Mais d'un autre côté, je pense qu'on n'est pas dans la même situation que lors des premières vagues, et on a le vaccin. Je me permets de revenir toujours là-dessus. Et donc c'est un compromis qui me paraît logique.
Vous avez raison, professeur Bréchaud, mais avant qu'on arrive à une immunité collective ou en tout cas à un seuil de vaccination suffisant pour qu'on puisse vivre à peu près normalement, c'est vrai qu'on a ces mesures contraignantes et notamment ce couvre-feu élargi à toute la France. Je le répète, c'est l'information du soir à partir de 18h pour au moins 15 jours. Alors, sur les chiffres que vous évoquiez de contamination, moi, il y a quelque chose qui me surprend. Comment expliquez-vous que par rapport à nos voisins, il n'y a pas d'explosion littéralement des contaminations et des hospitalisations en France ? L'Europe se cloisonne, nous on vit, allez, quasiment normalement, en tout cas pendant la journée. Et la grande question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes en avance sur les autres ou au contraire, on est en retard ?
Alors, c'est une très bonne question et la réponse honnête est je ne sais pas. Et je crois que quand on ne sait pas, il faut le dire. Je crains que nous soyons peut-être un petit peu en retard par rapport aux explosions des autres. Et donc, à ce moment-là, ça irait dans votre sens par rapport à la nécessité d'un confinement. Oui. Mais je voudrais vraiment revenir sur la vaccination, parce que si vous voulez, c'est le point essentiel. D'abord, bon, la vaccination ne marche effectivement que si elle est associée pendant encore plusieurs mois aux mesures de précaution, aux limitations de rassemblement, aux masques, au lavage de mains. Il faut le rappeler, on le rappelle toujours, mais c'est quand même essentiel de le rappeler. Le deuxième point, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de fatalité sur la vaccination. On sait maintenant qu'on a des vaccins efficaces. On sait qu'aux États-Unis où je suis, ils ont vacciné 9 millions de personnes. Oui. Il y a en tout 21 personnes ou 25 qui ont eu des incidents et encore aucun de ces incidents n'a été réellement dramatique du tout. Donc on a un vaccin qui est efficace.
Mais professeur,
on a un vaccin qui donne vraiment peu de...
Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Hein, maintenant, même l'opinion publique est en train de se retourner.
Tout le monde n'est pas d'accord, monsieur. Je me permets de dire, tout le monde n'est pas d'accord. Je vois que ce que je cherchais à dire, et après je m'arrête, c'est que dans ces conditions, si vous voulez, d'efficacité et d'innocuité, je pense que le sujet, c'est la vaccination de masse et extrêmement rapide.
Oui.
Et c'est ça mon point.
Oui, mais professeur Bréchaud, on n'a pas les doses, on n'a pas suffisamment de vaccins aujourd'hui pour vacciner massivement les Français. Vous savez, j'ai fait le calcul. Pour arriver à l'objectif de 14 millions de Français vaccinés d'ici le début de l'été, il faudrait vacciner plus de 150 000 personnes par jour. Aujourd'hui, même si on avait la logistique, nous n'avons pas ces doses.
Alors, vous avez raison, et donc ça pose deux questions. La première, c'est pourquoi on n'a pas la logistique qui nous permet d'aller plus vite. Je ne dis pas que les choses sont simples, hein, c'est pas du tout mon style, mais je crois qu'aujourd'hui je voudrais vraiment exprimer mon inquiétude, parce qu'on est en train de discuter entre confinement, couvre-feu, et c'est bien, et on est d'accord sur le fait qu'il faut avoir des mesures de restriction, et on vient de le dire. Mais regardez ce qui s'est passé en Israël.
Oui.
Alors bien sûr, c'est un contexte différent, mais c'est un pays qui a décidé, qui avait une cause nationale, qui était de se faire vacciner. Moi, la question que je pose, avant de revenir sur les doses dans un instant, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas une cause nationale là-dessus qui nous permette d'avancer de façon mais beaucoup, beaucoup plus rapide. Je voyais dans un sondage qu'il y a beaucoup de Français qui sont en train d'évoluer par rapport à leur méfiance vis-à-vis du vaccin. Sur les doses, votre point est bien sûr est important. Les Anglais sont très pragmatiques. Les Américains viennent d'y passer. Joe Biden a fait hier une conférence de presse avec son équipe. Ils voient les variants arriver. Ils savent qu'il faut vacciner en masse. Ils ont également des problèmes de doses. Eh bien, ils sont en train d'essayer d'évaluer la possibilité de vacciner avec une dose et d'attendre un petit peu à faire la seconde.
Oui.
Je ne sais pas s'il faut faire ça, mais je trouve que on doit se donner les moyens d'évaluer de façon extrêmement rapide. Et ça peut être fait de façon extrêmement rapide et pas uniquement au niveau national, parce qu'il faut arrêter d'être uniquement franco-français, mais au niveau international et en tout cas européen, de voir ces possibilités.
Alors, professeur Bréchaud, je voudrais simplement vous entendre aussi, puisque vous l'évoquiez, sur cette histoire de variant. Le variant anglais, on sait qu'il n'est pas plus létal, même s'il est plus contagieux. Ouais. On en parle régulièrement chez nous en France. Et puis, il y a un autre variant qui inquiète énormément, c'est le variant sud-africain. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a déclaré que ce variant sud-africain pourrait être plus létal et peut-être même échapper au vaccin. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ?
Alors, effectivement, d'abord, ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que c'est, entre guillemets, si on peut parler comme ça, normal pour un virus de muter. Il y a eu une première mutation en février dernier qui a donné un virus plus contagieux, qui a envahi toute la planète et qui a favorisé la dissémination. Ensuite, il y a eu des variants en Hollande et au Danemark cet été, avec des transmissions au vison. Et puis ensuite est arrivé effectivement le variant anglais, et puis maintenant le variant Afrique du Sud, et entre parenthèses, il y en a un autre qui a été identifié au Brésil. Donc il faut quand même se dire qu'il y aura des mutations, et tant que on aura une circulation active du virus, on aura des nouvelles mutations. Alors pour le variant sud-africain, on n'a pas pour l'instant d'informations plus directes, mais il y a quand même actuellement beaucoup d'arguments pour penser que le vaccin actuel permet de contrôler ce variant. Mais c'est une question légitime qu'a posée Jean-François Delfraissy. Ce matin, j'ai animé un workshop, une conférence call avec le Global Virus Network, avec des experts du monde entier.
Oui.
Les gens sont en train de travailler là-dessus. Mais je voudrais juste que cette discussion, qui est tout à fait légitime, ne change pas le fait qu'on a un vaccin efficace. La réponse aux variants, c'est de vacciner de façon extrêmement extrêmement rapide, massive, pour avoir un effet blast et pour contenir le virus avant que d'autres mutations apparaissent. Et c'est ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, en Israël et aux États-Unis.
Message entendu. Merci infiniment, Christian Bréchaud, professeur Bréchaud, d'avoir été ce soir en direct avec nous dans Europe Soir.
Europe 1. Julien Bugier.
Restez avec nous dans un instant, le rappel des titres et le débat des grandes voix. On vous dit tout sur les mesures qu'annonce en ce moment le Premier ministre Jean Castex, et notamment l'entrée en vigueur donc de ce couvre-feu pour tout le monde, partout en France, à 18h, dès samedi, pour au moins 15 jours. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, passé de 1 minute, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et un couvre-feu avancé à 18h dans tout le pays. C'est donc l'option choisie par le gouvernement pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Ce couvre-feu entrera en vigueur dans toute la France, donc à partir de samedi soir et pour au moins 15 jours. Les dérogations seront les mêmes que celles appliquées pour le couvre-feu à 20h. On pourra rentrer du travail ou bien aller chercher ses enfants à l'école. Afin d'éviter les concentrations des clients dans les magasins, le Premier ministre incite les commerçants à modifier leurs horaires pour étaler les flux. Jean Castex qui annonce également ce soir le renforcement des contrôles aux frontières pour les personnes venant d'un pays hors de l'Union européenne. Il faudra présenter un test PCR négatif et s'engager à rester à l'isolement 7 jours. C'est désormais dans l'ouest de la France que la dynamique de l'épidémie est la plus forte. Le Premier ministre estime que ce couvre-feu national à 18h doit permettre d'éviter des mesures plus sévères, notamment un nouveau confinement qui n'est pas exclu, hein, toutefois, si la situation sanitaire venait à se dégrader. Quant aux écoles, elles vont rester ouvertes, choix différent donc de celui de plusieurs de nos voisins européens, mais assumé par Jean Castex. Toutefois, les diffus positifs seront renforcés, notamment le protocole sanitaire dans les cantines. Les élèves d'une même classe mangeront tous les jours ensemble à la même table afin d'éviter les brassages. En dernier recours, des repas à emporter seront proposés aux enfants. Les activités sportives, scolaires et extrascolaires en intérieur sont suspendues. Et puis augmentation de la capacité de dépistage dans les écoles. Objectif, plus d'un million de tests chaque mois.
Merci Isabelle, on vous retrouve à 19h pour un nouveau point complet. Un petit coup d'œil au temps avant de débattre de tout cela avec les grandes voix. Une situation, ma chère Anissa, toujours perturbée dans le nord-est ce soir.
Oui, avec actuellement et jusqu'à demain midi 11 départements du Pas-de-Calais jusqu'à l'Alsace en passant par la Lorraine et le territoire de Belfort. 11 départements placés en vigilance orange. Neige, verglas. Notez que dans les Ardennes, le Pas-de-Calais et la Meuse, les transports scolaires ne circuleront pas demain. De nombreuses restrictions de circulation également dans ces régions. Les températures seront négatif demain matin et pourront entraîner du verglas. Grande prudence au nord-est. Demain, pour vous résumer la situation, c'est du soleil au nord et un temps plus perturbé sur la moitié sud. Les températures seront bien fraîches demain matin.
Eh bien, ça me semble bien résumer tout ça. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur le temps à 19h.
Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, le débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Claire Chartier, bonsoir Claire.
Bonsoir.
Rédactrice en chef débat et idées à l'Express. Mickaël Darmon, bonsoir mon cher Mickaël, chef du service politique d'Europe 1. Et Emmanuel Duteil, bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Chef du service économie d'Europe 1. On a beaucoup de chefs ce soir autour de la table, c'est normal, l'heure est grave.
C'est
l'heure
bon
est grave.
Signe.
Car Jean Castex, le Premier ministre, vient donc de confirmer, on l'annonçait ici même au micro d'Europe 1 il y a deux jours déjà, un couvre-feu national qui entrera en vigueur à partir de samedi, et cela pour au moins 15 jours.
Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Dans son dernier avis, reçu hier soir et qui sera rendu public très rapidement, le Conseil scientifique a du reste confirmé l'utilité du couvre-feu dans la lutte contre la pandémie.
Peut-être un mot d'abord, Mickaël, sur la coulisse de cette décision. Ça a été clair assez vite au sein de l'exécutif de prendre cette mesure, ou ça a donné lieu à d'importants pourparlers, négociations, comme c'est le cas habituellement?
Oui, d'après ce qui nous revient et le récit qu'on a pu reconstituer depuis plusieurs jours, depuis même 48 heures, les discussions ont été tendues. Hein. C'est parti d'abord d'une note qui a été transmise par la Direction générale de la Santé au gouvernement qui préconisait tout simplement un confinement strict dès maintenant. Et ça a d'ailleurs pas mal agacé en haut lieu, hein, où on a considéré qu'on était plus dans une mesure de protection de l'administration que vraiment prendre des mesures. Après, le débat a vraiment commencé très vite. Les trois options ont été annoncées par Alexis Kohler, hein, le secrétaire général donc de l'Élysée, sur effectivement soit il fallait aller sur un couvre-feu national pour à 18h, peut-être assorti à ce moment-là. L'option est envisagée sur la table d'un confinement le week-end. Ça a été finalement écarté. Et quant au confinement strict, on voit bien qu'il est gardé en cas de d'extrême, aggravation de l'épidémie.
Oui, mais je vais rebondir là-dessus, justement avec vous, Claire Chartier, pour commencer. Mais on sent que le discours est un peu en train de changer sur la perspective et l'idée d'un reconfinement. Par exemple, la fermeture des écoles, c'était totalement exclu par Jean-Michel Blanquer il y a encore quelques jours et par l'ensemble des membres de l'exécutif. Aujourd'hui, là, à la conférence de presse, en ce moment même, le Premier ministre dit « on va tout faire pour essayer d'éviter de les fermer ces classes ». Sous-entendu, ça peut quand même arriver.
Oui, mais je crois que franchement, a raison. Parce que la situation a beaucoup bougé en l'espace de 2-3 semaines avec l'arrivée de ces variants. En plus, il semblerait qu'il y en ait un troisième qui pointe son nez au Brésil.
Oui.
Donc là, effectivement,
variant anglais, variant sud-africain, qui serait
dont on ne sait pas exactement d'ailleurs quel est effectivement le
variant brésilien désormais.
Donc les cartes ont été totalement rebattues en 3 semaines, ce qui a d'ailleurs aussi complètement bouleversé la stratégie de vaccination. Donc très honnêtement, là, vous posiez la question tout à l'heure à votre micro, à votre interlocuteur, si on était en avance ou en retard. C'est vrai qu'on n'a pas la réponse.
Et le professeur Bréchaud m'a dit je ne suis pas en capacité de le dire.
Il n'a pas la réponse. Donc on peut quand même s'inquiéter parce que face à l'ampleur du problème, à défaut d'avoir la réponse, précisément, on devrait quand même se dire essayons d'anticiper. Ouais. Et anticiper, c'est peut-être d'aller beaucoup plus loin que ce qui est annoncé aujourd'hui, quand même. Et c'est ce qui inquiète, je pense, pas mal de Français.
Michel Cotin, on a beaucoup parlé maintenant, j'allais dire depuis un an. Vous vous rendez compte, ça fait, pardon de prendre un peu de recul, mais ça fait un an qu'on est dans cette histoire de la Covid. Cela étant dit, on a beaucoup parlé de la stratégie du gouvernement, de son anticipation, de sa communication aussi autour de la Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela est plutôt limpide ?
Ouais, le variant anglais a tout changé, évidemment. Mmh. On était au contraire parmi les premiers, on était contents de voir nos faibles chiffres, on en attendait 5 000, c'est tout dire, 5 000 contaminations par jour.
On est à plus de 20 000 aujourd'hui.
On avait promis, et en effet, on avait fait un des premiers couvre-feux. Malheureusement, on s'aperçoit que dans cette maladie, on est toujours dépassé par autre chose. Alors on aurait pu, par exemple, être dépassé par une maladie moins forte.
Oui.
La manque de peau, on est dépassé par une maladie qui l'est davantage. Donc, je comprends que rien ne soit exclu. Mais alors, sur les écoles, il y a quand même un phénomène tout à fait particulier qui s'est révélé. C'est que les enfants maltraités sont beaucoup plus importants quand on ferme les écoles.
Il y a
un impact terrible là-dessus.
Un impact social énorme sur la fermeture des écoles.
On se dit que autant qu'ils soient à l'école, plutôt que d'être maltraités par leurs parents.
En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire probablement à l'école.
Sur le protocole, vous voulez dire?
Oui, parce que pour avoir des témoignages très concrets et très proches, le lavage des mains, ça dépend quand même. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de mesures systématiques qui pourraient être prises de façon
beaucoup plus systématique. Il y a beaucoup de boulot qui a été fait quand même par nos amis enseignants et par le personnel enseignant.
Mais
ça va changer puisque je viens de voir que le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vient d'annoncer que les élèves de la même classe maintenant vont déjeuner ensemble.
Si c'est possible.
Ils seront plus mélangés avec les autres élèves de l'établissement scolaire.
Et si c'est pas possible, ils élargiront le temps pour pouvoir déjeuner de façon à rendre ça possible. Après, vous parliez, là, Michel, des enfants maltraités.
Ou pique-niquer en classe, qui peut être assez ludique pour les enfants, au demeurant.
Ouais, enfin bon, on est au mois de janvier, donc c'est pas obligatoirement le plus simple pour faire réchauffer et tout ça, c'est plat. Mais après, ce dont ils se sont rendus compte au premier confinement, et tous les professeurs, et notamment dans les zones les plus tendues, vous le disent, c'est le décrochage des enfants. Ça a été impressionnant. Et pourquoi on ne ferme pas les écoles ? Uniquement à cause de cela.
Oui.
C'est-à-dire qu'là, on parle souvent de pondérer le risque économique versus le risque
sanitaire. C'est une raison suffisante quand même. Vous dites uniquement, mais c'est une raison.
Mais uniquement dans le sens, c'est la raison principale. Oui. Et cette raison est entendable. Donc, quand on dit aujourd'hui, oh là là, il faudrait peut-être fermer les écoles, oui, sauf qu'on ne sait pas exactement si véritablement le variant anglais ou le variant sud-africain sont vraiment si dangereux que ça sur les enfants. C'est pour ça qu'ils sont bien obligés de dire aujourd'hui. Peut-être qu'on sera obligé de les fermer.
Oui, puis la fermeture des écoles, ça change considérablement la donne pour le fonctionnement de l'économie. Voilà.
Mais on peut confiner et laisser les écoles ouvertes. C'est une formule possible.
Oui, on peut le faire et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs au mois de novembre. 18h39, on se retrouve dans un instant. On parlera aussi, parce que c'est important, de l'impact pour nos amis commerçants. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat des grandes voix du jeudi, on parle évidemment des annonces de Jean Castex. Elles sont importantes avec toujours Michel Cotta, Claire Chartier de l'Express, Michaël Darmon du service politique d'Europe 1 et Emmanuel Duteil en charge du service éco d'Europe 1. Alors on évoque aussi l'impact de ce couvre-feu national à 18h pour au moins 15 jours. Nous a dit le Premier ministre, pour les commerçants. Voici par exemple ce qu'a dit tout à l'heure Jean Castex à ce propos.
dans la mesure où cette disposition va réduire les horaires d'ouverture des commerces, et afin d'éviter les concentrations des clients aux heures ouvrables, j'invite tous les établissements qui le souhaitent à se saisir des possibilités d'ouverture supplémentaire sur la pause déjeuner. Dans la plupart des départements, des dérogations permettant l'ouverture des commerces le dimanche ont pu être accordées, et j'invite là aussi les commerçants pour s'en saisir, pour étaler les flux. Et nous verrons s'il y a lieu de prolonger ces dispositions en février.
Alors là-dessus, il y a plein de choses à dire, Emmanuel Dutheil. D'abord sur l'impact sur les commerçants, parce que vous rappeliez hier au micro d'Europe Soir qu'il y a un tiers, par exemple, des courses alimentaires qui sont entre 18h et 20h. Donc évidemment, l'impact économique va être important. Et puis il y a l'impact aussi pour nos vies. Encore faut-il, comme le dit le Premier ministre, pouvoir aller faire ses courses entre midi et deux.
Et là, il y a énormément de choses dans ce qu'a dit le Premier ministre. Alors effectivement, on a parlé de la grande distribution, mais là, on pourrait dire que c'est des courses qui se reportent. Il faut bien manger à un moment. 20% des ventes de vêtements se font en achat plaisir quand vous sortez du travail entre 18h et 20h. 20% des achats de fleurs, plaisir, se font quand vous sortez du travail. Vous ne ferez plus ça. Donc, des pans entiers de l'économie vont être à nouveau
les buralistes aussi, vous citez
les buralistes, acheter son petit ticket de jeu de la Française des Jeux. Ça, c'est très important. Par ailleurs, le Premier ministre dit on va pouvoir élargir le dimanche pour lisser. Ah oui, très bien. Qui paye le surcoût des salariés le dimanche? Si vous êtes sûr de faire le plein comme un dimanche de Noël, bien sûr que vous ouvrez le dimanche. Mais qui va payer le surcoût normal? Parce que les collaborateurs qu'il va falloir bien faire sûr. Venir le dimanche, c'est normal qu'ils soient payés.
J'ai une question très précise à vous poser à
J'espère
ce propos.
J'espère que j'aurai la réponse
Emmanuel
aussi précise.
Dutheil, ben, si vous ne l'avez pas, ça veut dire que ce n'est pas clair. Parce que généralement, vous avez toutes les réponses quand ça a été dit. Est-ce que les commerçants vont pouvoir continuer à bénéficier des aides? Parce qu'au regard de ce que vous dites, ça va leur faire une sacrée baisse d'activité.
Oui, ils vont pouvoir bénéficier des aides parce que malgré tout, ceux qui sont fermés d'un point de vue administratif ou ceux qui vont avoir des pertes de chiffre d'affaires supérieures à un certain montant, bien évidemment qu'ils pourront bénéficier des aides. Il faut voir que là, d'un instant à l'autre, Bruno Le Maire va également s'exprimer, le ministre de l'économie. Et ils arrivent avec des mesures sur la table, notamment pour les chaînes hôtelières, pour les chaînes de restaurants, où là, les mesures qui étaient en place ne fonctionnaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'aide, tous ceux qui étaient concernés par ça. Ils vont arriver avec ça, ils vont relever le fonds de solidarité. Il y a un point, et je vais sûrement choquer un paquet d'auditeurs et je vous présente mes excuses à l'avance, mais on est le pays au monde dans lequel les aides sont les plus importantes. Oui, il y a des trous dans la raquette. Oui, il y a des gens qui ne sont pas dans les bonnes cases. Oui, il y a des gens qui en sortent. Ça ne veut pas dire que ça répond à tout, bien loin de là. Et là, il y a plein de gens qui se servent. Il est bien gentil derrière son micro privilégié. Mais il y a quand même un gros boulot qui a été fait pour soutenir l'économie. Regardez l'activité partielle qui est prolongée encore là en ce moment. Elisabeth Borne le confirmait ce matin au micro d'Europe 1. C'est pas suffisant, mais c'est énorme.
Claire Chartier, sur cet impact aussi sur nos vies, parce que c'est vrai que nous, dans les grandes villes, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai que dans les milieux ruraux, par exemple, il y a des temps de trajet en voiture pour récupérer les enfants à l'école, pour sortir du bureau, pour sortir du travail, il faut rentrer chez soi, ça va considérablement modifier. Et puis, il y a les patrons. Est-ce qu'ils vont accepter, et comment vont-ils accepter qu'on parte du boulot plus tôt, et comment on fait son travail dans un temps plus réduit? Ça pose tout un tas de questions.
Chacun doit aussi... forcément, dans ce genre de situation de crise, s'adapter et peut-être aussi parfois faire ses courses au milieu de la journée pour ceux qui sont en télétravail. Par exemple, ils peuvent le faire. Ils peuvent se dire, bon, c'est vrai qu'ils n'iront pas forcément acheter des fleurs en plein milieu de la journée, même en étant en télétravail. Je suis assez d'accord. Mais tout ça, cette litanie d'effets indésirables et que je comprends parfaitement, me ramène au sujet précédent, c'est-à-dire qu'on prend des demi-mesures qui, effectivement, ont des effets négatifs. Et finalement, pour quel bénéfice, quoi? C'est ça le problème. C'est que face à la situation telle qu'elle est, avec les interrogations qu'on a, est-ce que ça va suffire?
Alors, je m'inscris simplement en faux, c'est-à-dire qu'on a un retour d'expérience sur les 25 départements qui, depuis une dizaine de jours, sont passés en couvre-feu à 18h, et le nombre de contaminations départements-là recule.
Enfin, il augmente moins, d'après ce que j'ai lu, augmente moins qu'ailleurs. Mais ce n'est pas qu'il recule, moins qu'ailleurs.
Michel Cotta.
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que les demi-mesures, dans la façon où elles sont acceptables, bien sûr, vous n'êtes pas contraint, les demi-mesures ont un double avantage, un double bénéfice, puisque vous en parliez. D'abord, de maintenir un tout petit peu l'économie, et ensuite, d'être acceptable et d'être plus acceptable par les gens. Alors, c'est vrai que, par exemple, vous dites dans les milieux ruraux, sans doute, le 18h n'est pas terrible parce que les écoles ferment à 4h. C'est surtout dans les milieux urbains que c'est difficile. C'est sûr. Mais il faut quand même, de temps en temps, tant qu'on peut les conserver, à penser qu'il y a des demi-mesures avant d'attendre la mesure qui peut être en mars ou en avril.
Parlez pas de malheur, Michael Darmon.
Bon, en tout cas, sans parler de malheur, on sent bien quand même que c'est une préparation des esprits. Oh. Pour pouvoir aller, peut-être malheureusement, ou en tout cas heureusement, on verra, vers une décision de confinement plus dure, plus stricte, parce que...
Et donc pourquoi attendre ?
Parce qu'ils ont les voir de la stratégie qu'ils ont mise en place n'était pas la plus mauvaise.
Et parce qu'aujourd'hui,
il faut voir qu'on n'a pas adopté la même stratégie que les autres, donc ils ont l'espoir de se dire qu'avoir confiné plus tôt que les autres, qu'à la surprise générale, que les données épidémiologiques du 31 décembre sont correctes. Il n'y a pas eu cette flambée qu'on pensait.
Oui, ça, c'était avant l'arrivée.
Bien évidemment, mais je pense, et je ne suis pas dans leur tête, mais ils pensent encore que c'est contenable pour le moment et que ce serait compliqué de... Mais bon, on va voir.
Les cartes, c'est quand même ces variants qui arrivent et ces mutations.
Mais
et
pour l'instant, on ne connaît pas le taux de pénétration.
Non, on connaît pas.
Dans,
mais l'OMS vient de se réunir.
L'OMS a avancé une réunion
pour précisément plancher sur ces variants. Il y en a encore une fois plusieurs.
On va en parler dans quelques secondes. 18h48, vous restez avec nous, évidemment. On continue à vous évoquer et à vous donner le détail de ces mesures. Je suis en train de regarder les dépêches AFP en même temps de ces annonces de Jean Castex. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, la suite du débat des grandes voix du jeudi consacré à ces annonces du Premier ministre qui vont tous nous concerner à partir de samedi, notamment le couvre-feu élargi à l'ensemble du territoire national à 18h pour au moins 15 jours avec Michel Cotta, Claire Chartier de l'Express, Michael Darmon du service politique, Emmanuel Dutheil du service éco d'Europe 1. Alors, il y a d'autres annonces qui sont importantes. Je voulais qu'on en parle brièvement avec vous, les amis. Les universités notamment, ça c'est un peu contre-intuitif, hein, parce que d'un côté on annonce des mesures plus restrictives, et puis de l'autre on nous dit, c'est Frédéric Vidal qui l'a annoncé lors de cette conférence de presse, la reprise par demi-groupe des travaux dirigés en première année, et cela à partir du 25 janvier, le Premier ministre s'est d'ailleurs exprimé à ce propos.
Oui, c'est un point très important, mais là encore ça vient d'une donnée purement pragmatique. Il y a une détresse mentale, psychologique, voire pour certains économique des étudiants, puisqu'ils ont perdu leur job étudiant, et que donc ils ont essayé de trouver la solution la plus pragmatique, et qui, vous avez totalement raison Julien, paraît anachronique au regard du reste des annonces. Mais il fallait les faire revenir en partie en présentiel, pour ne pas rater une année entière de cours à
Michael Darmon.
Puis il y a une logique politique. Il y a quelques semaines, le président de la République s'est longuement adressé à la jeunesse par l'intermédiaire du site Brut. Il a montré toute la compréhension donc, de la situation qu'il vivait. Il ne pouvait pas non plus maintenir et ne pas entendre leur cri de détresse, effectivement, et la situation de détresse mentale qui est aussi importante à préserver, hein, cette santé mentale que celle vis-à-vis du Covid, surtout à cet âge-là et vis-à-vis de cette génération.
Michel Cotta, sur les étudiants.
Là aussi, importance du mutant. Parce que si le mutant frappe davantage les jeunes, comme on l'a dit, et notamment les jeunes au-delà de 20 ans...
C'est pas avéré encore. Hein,
c'est pas avéré. Ouais. Mais donc l'influence qui peut-être remettra cette stratégie en cause.
Alors il y a un élément très très important aussi sur lequel le gouvernement est beaucoup revenu. Il y a les mesures plus restrictives, les mesures d'assouplissement pour les universitaires, et puis il y a aussi toute la campagne de vaccination qui est quand même le point clé pour qu'on arrive à se sortir le plus vite possible de cette situation à plus long terme et notamment d'ici l'été. Le Premier ministre a notamment annoncé l'accélération des ouvertures des centres de vaccination. Écoutez-le.
Conformément à notre stratégie de priorisation des plus fragiles, j'ai décidé d'ouvrir dès lundi 18 janvier également, la vaccination aux personnes, quel que soit leur âge, présentant une des pathologies conduisant à un très haut risque de forme grave de la maladie. Plus de 700 centres de vaccination seront ouverts lundi, grâce à la mobilisation conjointe de l'État, des élus locaux et des professionnels de santé.
Voilà, on voit bien que le gouvernement marche sur deux pieds. D'un côté, on serre un peu la vis parce que les contaminations reprennent, et puis de l'autre, on accélère sur la vaccination. Et c'est vrai que, pour le coup, le message a été entendu de la part de l'exécutif Claire Chartier. Ça fonctionne aujourd'hui plutôt bien, la vaccination. Ce soir, on est à 250 000 personnes vaccinées. On sera peut-être à 400 000 d'ici à la fin de la semaine. C'est l'objectif du gouvernement. Et 1 million sur le mois de janvier.
Oui, le retard à l'allumage est en train d'être en partie comblé, même s'il y a des problèmes encore de logistique, parce que visiblement, c'est quand même une énorme machinerie.
Il y a un autre problème de logistique, c'est qu'on n'a pas assez de doses.
Là, pour le moment, on n'en manque pas. Hein.
Non, on n'en manque pas, parce qu'en plus, on peut récupérer les doses que n'ont pas utilisées, que n'utilisent pas certains pays européens. C'est l'avantage.
C'est très, très loin du stock qu'on s'est constitué pour le moment. Donc mais, on a le temps.
Mais et de si toute façon, on a des réserves.
Si on arrive à un taux de vaccination de plus de 100 000 personnes par jour,
parce que c'est fin janvier, on a largement assez de doses.
C'est quand même l'objectif, on aura du mal à suivre.
Non, pour le moment, si on ne va pas plus vite que ça, pour le moment, on devrait y arriver.
Mais l'idée, c'est quand même d'accélérer.
Oui, bien sûr.
Mais encore une fois, on peut bénéficier de doses
que
des pays européens,
etc. Et Hongrois aussi, me semble-t-il.
Donc ça, c'est l'avantage de la mutualisation, un des avantages de la politique européenne en la matière. Mais effectivement, je pense que le retard est en train d'être comblé. On a aussi compris qu'il n'y avait pas que, pour expliquer ce retard, une sorte de... Comment dire, c'est vrai que le gouvernement s'est un peu laissé impressionner donc, par toute la campagne, ou en tout cas l'écho médiatique qu'ont eu les anti-vaccins, en se méprenant peut-être un peu sur leur nombre, parce que ce sont des gens qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et là, en fait, je pense qu'il y a eu cet effet, comment dire, en partie d'intoxication, oui, c'est-à-dire qu'on croit qu'ils sont extrêmement...
Mais ça, c'est fini. Hein. Vous avez donc vu le dernier sondage IFOP fiducial. Il y a 54% des Français qui disent aujourd'hui être prêts à se faire vacciner. Les choses sont en train de s'inverser, Michaël Darmon.
Oui, mais c'est peut-être un facteur de pression supplémentaire sur le gouvernement. Parce que, puisque maintenant les Français sont pro-vaccins, ils vont les vouloir, et les vouloir vite, et les vouloir encore plus vite. Donc,
pro-vaccin,
c'est
40% de contre, oui. C'est quand même énorme.
Oui,
hein, on est quand même le seul pays.
Il y a un effet d'entraînement.
Il y a tout à fait un effet d'entraînement.
C'est en train de changer. D'ailleurs, c'est aussi tout cela accompagné d'un autre sondage permanent où on entend que les Français considèrent que ça ne va pas assez vite. Donc, aujourd'hui, on va avoir une pression.
C'est difficile de gouverner, quand même.
Surtout la France.
Surtout la France. C'est vrai, on ne va pas être à leur place. Hein. Mais c'est vrai que cette course poursuite, elle est permanente entre la campagne de vaccination, maintenant le variant et ses effets, on va les voir, et continuer à piloter un pays tout en arrivant dans la zone de la campagne présidentielle. Donc tout cela est une pression maximale.
Merci d'avoir animé à mes côtés ce soir et d'avoir commenté avec moi les annonces de Jean Castex. Merci à tous les quatre. On se retrouve dans quelques secondes avec le journal. Bien sûr, on reviendra sur ces annonces et le débat du Club des idées. Quel impact aura ce couvre-feu généralisé à 18h sur nos vies et notre quotidien, et comment s'organiser demain? On en parlera avec nos invités. À tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.